Kiosque Magazine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue au Kiosque Magazine de ce mercredi 21 janvier 2015. Une journée froide, mais quand même assez belle. Alors, aujourd'hui, pour la revue de presse autour des thématiques santé, cuisine et maison, vous serez en compagnie donc, de Sophie Chevance et de Janine Petitbois. Janine, comment vas-tu aujourd'hui?
Comment vas-tu? Ah ben, je vais très, très bien. Nous avons des bonnes choses aujourd'hui. Est-ce que tu sais que c'est l'anniversaire du drapeau du Québec?
Ah, non.
Et oui, c'est un 21 février qu'il a eu son anniversaire à fêter. Alors, on souhaite bonne fête. Et on souhaite le Canada qui s'était passé le 15 février. Imagine, nos drapeaux ont un anniversaire aussi. J'ai appris ça avec Gino Chouinard ce matin.
Ah, hey, très intéressant.
Oui, c'est bien.
Alors, de quoi tu nous parles, Janine, aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons aller... Oh, j'ai des belles histoires. On va nous parler de Martin Matt et peut-être un petit peu aussi les Bourbons et nos petits vins qui sont toujours à savourer l'hypersexualisation chez nos jeunes. Faut prévenir, oui.
Alors, moi, ce qui me concerne, oui, c'est ça. Ben moi, en fait, je vais continuer un petit peu sur ma rubrique sport. Je vous avais parlé du sport puis des bénéfices sur la santé.
Oui.
Alors, cette semaine, je continue avec ça. Puis, je vais vous parler, dans le fond, du lien entre le sport, le dépassement de soi et l'audace.
Oh, à intéressant, bien sûr.
Alors, pour le premier article que j'ai choisi de vous lire, en fait, aujourd'hui, il s'intitule « L'audace des premiers pas ». C'est un texte de Christian Lévesque dans le magazine Espace de janvier 2015. Et j'ai pas mal fait une razzia cette semaine dans le magazine Espace, qui est le premier magazine de plein air au Québec.
Oui,
alors, j'y vais avec ça. Face au changement, à l'intersection qui part vers le chemin le plus accidenté, plus audacieux et incertain, il m'est arrivé plus d'une fois de ne même pas vouloir regarder dans cette direction et de continuer tout droit dans le sentier balisé, plus facile et plus prédictible, en sachant très bien que l'aventure, la vraie, se trouvait de l'autre côté. Je suis convaincue que cette réaction est humaine. Se lancer dans l'inconnu est épeurant. On fige et on reste dans ce que l'on connaît bien, ce qui est confortable et prévisible. Pourquoi changer si tout fonctionne encore? Lorsque mon fils fera bientôt ses premiers pas, j'aurai assurément la même réaction que lorsque ma fille s'est mise à se promener dans la maison. J'aurai peur qu'il tombe et se blesse. Et c'est probablement ce qui arrivera assez vite. Il tombera, se relèvera et tentera sa chance de nouveau. Inlassablement jusqu'à ce qu'il y parvienne. Avec sa démarche incertaine, il me regardera avec un immense sourire de bonheur et des yeux pétillants, fier de son nouvel accomplissement.
Ah oui.
Peu après, il se mettra à explorer tous les recoins, puis les pourtours de la maison. Viendra un temps où, comme ma fille, il commencera à me demander, sans trop savoir encore ce que cela implique, d'aller marcher jusqu'au sommet d'une montagne. Ils sont adorables à cet âge, ils ont hâte de pouvoir se lancer dans l'inconnu, de repousser leurs limites et de faire leurs premiers pas dans un univers encore trop grand pour eux, mais qui deviendra bientôt trop petit pour leurs ambitions.
Ouais, ça passe vite.
Aujourd'hui, je me sens pourtant à leur niveau. Je me lance dans le vide. Je quitte mon boulot, mon univers sécuritaire pour faire mes premiers pas dans une nouvelle aventure incertaine. Après avoir longtemps hésité, je ne peux plus passer à côté du chemin qui semble le plus chaotique et difficile. J'ai le goût de vivre une nouvelle aventure. Mes premiers pas seront incertains, petits et précis. Rassuré, je pousserai un peu plus loin. Confiant, j'entreprendrai ensuite de plus grands projets. Je tomberai assurément plusieurs fois, me relèverai aussi, puis foncerai à nouveau avec un rêve à l'horizon. J'ai été honorée de faire partie de ce magazine durant 8 années, mais le temps de dire au revoir est arrivé. Je tiens à vous remercier pour tout, les lettres, les appels, les commentaires et tout le reste. Les prix de journalisme que nous avons gagnés aident à nous rappeler que nous sommes toujours aussi pertinents dans l'univers des publications québécoises, que notre esquif avance et maintient son cap. Je vous souhaite de continuer à profiter du plein air, de réaliser vos rêves et poursuivre vos aventures les plus folles. Rappelez-vous qu'Espace est non seulement la publication de plein air la plus appréciée au Québec, mais qu'elle constitue aussi votre passeport pour un monde sans frontières, rempli de liberté, d'aventure et de plaisir. Profitez de chaque moment pour dévorer cette édition et les suivantes, puis déposez-les pour ouvrir votre porte et suivre votre audace.
Intéressant.
Alors, j'enchaîne
on
avec...
aussi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est le rédacteur en chef, puis
il
quitte son travail pour partir dans une aventure. Alors, pour la suite, en fait, j'avais pensé vous lire un petit texte d'Espace aussi, mais c'est l'édition de mars 2014. Ça date un petit peu, excusez-moi, mais c'est vraiment un article très intéressant.
Oui.
Il s'intitule « Plein air et non-voyant, voir le monde différemment ». C'est un témoignage, en fait. Alors, France Poulain, 55 ans, Guillaume Lefebvre, 35 ans, non-voyant, et Jade Provost, 23 ans, malvoyante, en savent quelque chose. Très actifs, ils pratiquent leurs activités avec autant d'enthousiasme que tous les amateurs de plein air, que ce soit la marche en montagne, l'escalade, le tandem, le kayak, la raquette et même les triathlons. Ils ne voient pas, mais leurs autres sens prennent la relève. L'Association sportive des aveugles de Montréal, la SAM, s'occupe de les faire bouger. Sylvie Trudel, responsable de la programmation de l'organisme, affirme qu'avoir l'enthousiasme de ses 120 membres actifs de 19 à 84 ans, on comprend l'engouement que suscite le plein air chez les non-voyants. C'est sans compter tous les bénévoles qui les accompagnent lors des activités. Parmi les plus populaires, il y a le tandem, la randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond, tous adaptés aux besoins des non-voyants. France et Jade sont toutes les deux membres de la SAM et participent chaque semaine aux activités proposées. Elles s'entendent pour dire que l'association comble vraiment un besoin dans leur vie en leur permettant de pratiquer des activités de plein air en toute sécurité et dans la bonne humeur. Jade s'entraîne même avec une bénévole en tandem pour faire une compétition qui lui permettra peut-être de se classer pour les Jeux paralympiques.
Mais non, imagine.
Mais oui, c'est quand même très intéressant.
Oui.
Elle s'entraîne aussi pour faire un demi-Ironman en Floride à l'automne prochain. Donc, on suppose que c'était l'automne qui vient de passer. Bien que la SAM soit l'association qui compte le plus de membres, il en existe dans d'autres régions du Québec. À la conquête du Kilimandjaro et de l'Akakonga. Alors, France Poulain a perdu la vue graduellement à partir de l'âge de 42 ans. Maintenant, retraitée de la fonction publique, elle ne voit plus rien. Cela ne l'a pas empêchée d'escalader cependant le Kilimandjaro en Afrique il y a 2 ans. Donc, c'était en 2012 pour la fondation Mira, avec d'autres grimpeurs, dont Guillaume Lefebvre, un autre non-voyant. Pendant son ascension, sa guide Geneviève Lecourt de Shinnok Adventure lui décrivait les paysages en détail. Une expérience que cette habituée des paysages exotiques n'est pas prête d'oublier non plus. Elle dit avoir l'impression de mieux voir les alentours, d'être plus attentive à son environnement. Pour France, cette expérience a prouvé qu'avec un peu d'organisation, les non-voyants n'ont de limites que celles qu'on leur impose. Donc c'est pas mal ça en fait pour cet article-là. Puis la SAM, vous avez les coordonnées dans le fond. Ben, j'ai le numéro de téléphone, c'est le 514-252-3178 et c'est dans le coin du stade olympique. Donc voilà.
Oui. Des beaux défis. Bien, moi, je vous parle de notre charmant Martin Matt, sans malaise. Un article de Louise Gendron dans le Châtelaine de février 2015. Alors, il cartonne comme humoriste un peu baveux depuis plus d'une quinzaine d'années. Pourtant, on en sait peu sur lui. Il a bien voulu nous présenter les autres Martin. Alors, l'homme de famille, ma blonde et moi, on est ensemble depuis l'âge de 15 ans. Et ça se passe bien, même si, comme tout le monde, on a des périodes qui sont meilleures que les autres. Je ne parle jamais de ma vie privée. Je ne fais jamais de photos avec ma famille, par exemple. Pourtant, je me livre beaucoup sur scène. C'est même parfois très intime, mais comme c'est sous le couvert de l'humour, personne ne distingue ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. J'ai tout ce qu'il me faut. Je gagne bien ma vie. J'ai une belle famille, des enfants. Je suis bien. Malgré ça, je ne suis pas toujours heureux. Il n'y a pas de recette. Je cherche beaucoup et rien ne vient facilement, même si, en vieillissant, on sait mieux ce qu'on veut. Par exemple, je ne veux plus faire 8 choses en même temps. Mon spectacle, condamné à l'excellence, a pris 5 ans de ma vie et à un moment, j'en ai fait trop. Je me suis brûlée. Je ne veux plus ça. Je travaille fort, je suis exigeant envers moi-même et envers les autres. Des fois, j'aimerais ça être plus fin avec mes enfants, avec les gens que je côtoie dans mon travail. Mais je suis impatient, je ne suis pas fier quand je me fâche. Je crois qu'on peut s'améliorer un petit peu à gauche et à droite et qu'on reste fondamentalement le même qu'à 20 ans. J'apprends donc à gérer cette impatience. J'essaie d'être la meilleure personne possible pour moi et pour mon entourage. J'espère être un bon père. Je pense que je le suis, avec mes forces et mes faiblesses. Le gars fier dans une J'ai une grande affection pour la société québécoise. J'aime ce que l'on est, ce que l'on fait. Ce qui m'énerve, c'est le côté colonisé qu'on sent encore. Le côté né pour un petit pain. C'est comme dans notre ADN, exemple. Dans les Alpes, un Français me demande si je suis bon en ski. Pas mal que je lui réponds, et vous? Je suis top, j'ai fait tous mes niveaux. Ben, moi aussi, j'ai fait tous mes niveaux, mais je lui ai répondu que je me débrouillais. J'ai été élevée dans un petit bungalow à Laval. Mon père avait son entreprise et, à une époque, il faisait des sous. Je me suis fait insulter à l'école parce qu'on roulait en Cadillac. Ça devait être génétique. Les enfants se faisaient dire par leurs parents, « Regarde le crosseur, il y a un gros char. » Tu n'es pas moins bonne personne parce que tu as des sous. Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, est aussi l'un des plus grands philanthropes de la planète. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'argent, mais il n'y a pas de mal à ça non plus. Ce gros tabou nous a empêchés de nous épanouir. C'est pour casser ça que j'ai monté sur scène en disant que j'étais le plus grand humoriste de la planète. C'était de l'humour, évidemment. Mais être fier de soi comme médecin, comme libraire, comme charcutier, c'est beau, je trouve. Moi, je suis heureux quand je suis fier d'un épisode bien écrit, bien fait. Quand je prends le métro à Londres et que les rames sont signées Bombardier, c'est bien, l'amoureux des arts. Je lis tout le temps des romans. En général, en ce moment, c'est Le Royaume. J'ai lu Tag, un baricot aussi. Et je me dis, s'il me reste 1% de ce que j'ai lu pour trouver le mot juste, ce sera bien. Je suis un passionné de peinture, les classiques, mais surtout l'art contemporain. J'aime beaucoup l'abstrait, les couleurs, l'énergie qui se dégage d'une toile. J'en ai acheté quelques-unes. Quand je suis assis chez moi devant une belle toile, je l'admire, ça m'apaise. La musique, c'est la même chose. Toute œuvre m'émeut. Il m'a fallu du temps avant d'assumer qu'il y a quelque chose de très beau et de très noble dans l'humour aussi. Un musicien, un humoriste, un chanteur, un peintre exprime quelque chose. C'est vraiment proche, finalement. Le créateur. 12 émissions des Beaux Malaises. C'est une année de travail. 6-7 mois d'écriture, les tournages, les montages. Le plus beau défi, c'est pas de tourner ou de le monter. C'est d'écrire 25 pages par semaine et que ce soit drôle. Parfois, j'écris 10 versions d'un épisode. Si quelqu'un me dit qu'il a été touché et qu'il n'a pas ri pour moi, c'est un échec. Je m'intéresse à la politique et à ce qui se passe dans le monde, mais je n'ai pas envie d'écrire là-dessus. Ce qui m'allume, c'est la chicane entre toi et ta blonde au sujet des enfants, le travail, la vie de fou qu'on mène. Je parle de ce qui m'émeut et me touche, mais je cherche à aller le plus loin possible. Et ça m'énerve que quelqu'un décide que je ne peux pas dire ça, ou si, ou la télé, oh! Alors je le dis quand même, pas pour baver, mais pour prouver que c'est possible, que les gens sont capables d'en prendre et d'en rire. J'ai écrit un épisode sur le sexe handicapé, hey, on s'en souviendra. Hein? Le jour de la diffusion, j'ai reçu 6000 messages, positifs dans leur immense majorité. Hey, pour les Beaux Malaises, j'avais envie d'un gars de cinéma, comme Francis Leclerc. Je voulais une grande qualité de réalisation et ça m'émeut que ce soit aussi bon aujourd'hui. Le skieur, je capote sur le ski alpin et ça va vite, c'est trillant. Je pratique ce sport depuis que je suis tout petit. J'ai fait de la compétition, mes enfants aussi. Quand j'étudiais à l'université, je travaillais comme vendeur chez André Lalonde Sport et j'essayais des skis pour les fournisseurs. Récemment, j'ai une petite entreprise québécoise, Raccoon, qui m'a demandé de tester ses skis. J'ai été impressionnée. Je me suis associée à eux. Le bienfaiteur. Mon frère Christian est devenu traumatisé crânien à la suite d'un accident de voiture. Notre famille a beaucoup souffert du manque de ressources de répit et d'hébergement. La Fondation Martin-Matt est issue de cette souffrance. Mon frère est passé par 19 maisons d'accueil en 20 ans. Le but ultime de la Fondation Martin-Matt est de lui fournir un milieu de vie, à lui et à d'autres. Des traumatismes crâniens sévères, il y en a 10 par jour au Québec. Et un jeune homme de 22 ans qui, après un accident d'automobile, se retrouve dans un CHSLD pour le restant de sa vie, c'est dégueulasse. Ça, c'est vrai, hein? Mais le système de santé ne suffit pas aux besoins. Nous avons recueilli des millions de dollars depuis 9 ans. Une troisième maison Martin-Matt, après celle de Laval et de Sherbrooke, ouvrira ses portes ces jours-ci à Blainville. Deux autres Oups, excusez. Je ne voulais pas que la fondation porte mon nom. J'ai assez de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de ça. Mais mes amis, Michel Ostigui, Roger Gariepé de l'agence Boss, à qui j'avais proposé de siéger au conseil d'administration, m'ont dit « Tu veux aider le plus de monde possible. Tu veux ramasser des sous. Alors, il faut ton nom. » Et j'ai décidé de prendre sur moi, d'assumer. Je préside chaque conseil d'administration de la Fondation. J'aime tous les événements. Le souper annuel, j'anime tous les événements. Le souper annuel, le tournoi de tennis. Je vais chercher les chèques. Ça prend une dizaine d'heures par semaine. J'aimerais que d'ici un an ou deux, quelqu'un d'autre prenne la présidence. Je resterai porte-parole et membre du CA. Cette fondation, c'est un petit côté de ma vie dont je suis bien fière.
Samedi matin, il est tombé 3 pieds de neige. Ça se promène en raquette dans les rues de Montréal. Même que mon voisin est sorti de ses pantoufles pour dire au monde c'est rien à côté de Robert Val. Mon char enfoui hiberne un peu. J'suis pas pressée, je regarde les pelleteux qui se défoulent. Mon bazou d'or, ben au chaud dans son igloo. J'en profite pendant. Son dentier en a même perdu son accent. Maudit hiver, oh la galère. Maudit hiver, oh la galère. Maudit hiver, fais comme la visite, reste pas trop longtemps. Maudit hiver, je t'aime un peu plus. Quand je vois que tu fonds pis que tu fous le camp, je vois le nez du printemps. Dimanche matin, il est tombé 5 pieds de neige. Ça se promène en train. Le gars de la gratte est débordé, mais positif, il dit au monde, c'est rien à côté du lac Castor. Tout est fermé ici dans un coin, le village se ramasse au magasin général. On boit du vin de dépanneur, à quelle horreur pour les bons buveurs, mais là faut calmer les rafales. Quand j'y vois les
Après ce beau titre du groupe Jaune, Les pieds dans la neige, qui est un très beau lien avec l'article qui va suivre, en effet, Donc, c'est ça. Je vous ai fait un petit témoignage sur l'ascension du Kilimandjaro. Et puis là, on revient vers chez nous, plus proche de chez nous, avec un article de Véronique Champagne paru dans Espace de novembre 2014, intitulé « Vivre la longue randonnée hivernale ».
Oh là là là, cher hiver.
Faire une pause de randonnée durant l'hiver, pas question, Janine.
Non. Oui, j'aimerais ça. Des fois, ils nous donnent un petit répit de soleil, c'est bien.
On peut, mais c'est aussi très chouette de faire une randonnée en hiver. Autour, au parc national des Monts-Valins, tout était blanc. 10 adultes s'y étaient donné rendez-vous, 10 enfants s'y sont retrouvés. Des heures de randonnée hors piste à laisser leurs traces dans un paysage féerique bien loin des contraintes quotidiennes. Des heures à rire.
Ah, ouais.
En randonnée l'hiver, tu ne penses plus à rien. C'est le calme total.
Ah, oui,
l'air est encore plus pur. C'est zen, décrit Carole Roy, adepte de randonnée hivernale. L'aventure accessible. Il est vrai qu'une longue randonnée hivernale demande un peu plus de planification qu'une randonnée estivale, certes. Mais à peine, si l'on met de côté la nuit sous la belle étoile. Le nerf de la guerre en hiver, rester au sec pour ne pas attraper froid. Durant plusieurs journées, cet objectif se réalise avec des vêtements qui sèchent rapidement, une première couche de vêtements propres pour chaque jour d'expédition et plusieurs options de couches supplémentaires dans le sac à dos afin de s'adapter à la météo changeante, sommet après sommet, ou même en cours de montée. Rester sec, c'est important.
Mais oui.
Une fois, on est parti en expédition 2 jours. La première journée, il faisait soleil et moins 25 degrés, puis nous avons eu du verglas le lendemain. Il faut être prêt à tout, raconte Pierre Duff, un adepte qui randonne depuis une quarantaine d'années. Passer d'un extrême à l'autre est néanmoins exceptionnel. Un des avantages indéniables de la randonnée hivernale, il ne pleut pratiquement jamais.
Bon, oh, c'est bien ça.
Ben oui.
Mon Dieu.
Quand le ciel se couvre et devient tout gris, on ne craint pas la pluie. Si ça se met à tomber, ce sera juste plus beau avec la neige, dit le randonneur. Partir en expédition l'hiver, c'est partir à l'aventure. Le climat nous entoure des pieds à la tête, tellement qu'on s'y sent particulièrement vulnérable. En même temps, on s'y sent à notre place, en se déplaçant sans bruit, un pas à la fois, dans un environnement plus d'un calme contagieux. La nature, comme un tableau vierge monochrome, où les sens parviennent à se concentrer sur ce qui les entoure, doucement. Une aventure zen bienvenue après un quotidien aux 1000 stimulations. Quand on arrive au refuge le soir, c'est un peu comme le trophée de notre journée. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ça ne pourrait pas être mieux. Tu alimentes ton feu, te fais une bonne bouffe et tu savoures, tout simplement.
Oh là là!
C'est vrai quand même, Janine.
Oui, imagine.
L'apothéose du confort bien mérité, une chaleur bien méritée après une journée où l'effort nous a gardés à la bonne température, pas après pas. Mais l'aventure n'est pas terminée. Les loups qui hurlent tout autour de notre refuge, si près. Je m'en souviendrai toujours, témoigne Pierre Duff. Et on recommence le lendemain. Pour s'y retrouver au Québec, la Fédération de la Marche du Québec a lancé l'automne dernier le site Balise, un répertoire de randonnée toute saison. La balise de données est colossale et l'outil de recherche simple et précis pour dénicher les endroits où faire de la randonnée hivernale ou de la raquette selon les critères comme la région, la location de raquette, l'admissibilité des chiens, la présence de refuges, les frais d'accès, etc. Les résultats s'affichent sur une carte, question de bien situer notre prochain terrain d'aventure. Chaque endroit de randonnée possède une fiche descriptive complète qui comprend toutes les informations pratiques, y compris la liste des sentiers. Avec la longueur, le niveau, le profil, etc.
Ah ouais, c'est bien ça.
C'est la Bible numérisée des livres de la Fédération de la Marche du Québec, un site pratique pour varier et découvrir de nouveaux terrains de randonnée hivernale, donc ça peut être quand même utile. Mm-hmm. Expérience marquante à mettre à l'agenda cet hiver. Le temps d'une fin de semaine de randonnée hivernale, les sensations sont telles que le moment présent prend toute la place. Décrochage garanti. Les journées plus courtes ont du bon. Elles rendent possible en effet l'expérience de vivre un coucher de soleil en montagne avec une excursion d'une journée. On prévoit le coup en partant vers midi, on grimpe pour arriver au sommet vers 15h-15h30, puis on admire le coucher du soleil. La descente à la frontale est aussi une expérience surréelle, le noir tout autour, le blanc tout autour et nos pas dans le calme. Souvent, on planifie de telles randonnées les soirs de pleine lune. C'est magique, raconte Carole Roy, aussi responsable de la planification des voyages à Détournature. En longue randonnée, on en profite en plus des levées du soleil, moins matinaux que durant la belle saison. On aime regarder la journée se réveiller, café ou bâton de marche en main. Alors, quelques conseils de pros qui nous donnent. Opter pour le multicouche, bien sûr. Encore, oui, encore. C'est l'erreur numéro 1. On regarde le thermomètre, on a peur, on oublie. Résultat, on s'habille comme si on allait attendre l'autobus en plein air et on surchauffe après 10 minutes d'effort. En haut de moins 25 degrés, on choisit un manteau léger et bien aéré, sous lequel on met une première couche et un petit polar. En cas de doute, ou si un haut sommet est au programme, on apporte une couche supplémentaire dans notre sac à dos. C'est ce qu'on traîne en double également, des mitaines et...
Eh oui, ça c'est vrai.
Des bas.
Ah, les bas, c'est vrai.
Ouais. Oui, des mitaines et des bas, c'est super important.
Changer, ah
bon. Il vaut mieux l'avoir en trop que l'avoir en moins, dit Carole Roy. Ne pas oublier de s'hydrater. On a tout aussi besoin d'eau l'hiver. On fait un effort considérable, on boit. On doit rester bien hydraté, prévient Pierre Deuf. Pratique, l'eau nous entoure, peu importe le sentier, il vaut mieux faire fondre et bouillir la neige avant de boire son eau quand même, pour éliminer tout agent indésirable et pour éviter de se refroidir en tentant d'assécher sa soif. Ensuite, réserver.
Bon.
Si l'on ne souhaite pas une nuit surprise à la belle étoile, on doit penser à réserver sa place en refuge. Ben oui. Les refuges sont beaucoup plus utilisés l'hiver que l'été. Il faut donc s'y prendre un peu d'avance, prévient le randonneur.
Imagine.
Alors là, les lintos ou appentis, ces refuges ouverts, sont à considérer si les refuges ne sont pas disponibles sur votre itinéraire. C'est quand même intéressant. Leur toit et les murs protègent du vent et le sol permet d'éviter de devoir pelleter sa place pour y nicher son sac de couchage. Petit conseil à rappeler, ne jamais se coucher directement sur la neige, car la chaleur de notre corps la fera fondre et on se retrouvera trempé. Ne pas suivre des traces aveuglément, on risque de faire les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant nous si on fait ça, ou bien de suivre leur itinéraire sans penser au nôtre. Et enfin, attention à la noirceur, les journées sont courtes pendant l'hiver et le soleil paresseux. Il vaut donc mieux partir plus tôt pour éviter d'être surpris par la noirceur. Par la noirceur hâtive, à moins que c'est ce qu'on cherche.
Ouais. C'est beau. Hein?
Oui, bah oui. Toujours apporter une lampe frontale pour les imprévus, évidemment.
Et voilà, moi j'ai un petit article du Journal de Montréal du 13 janvier. Réduire son tour de taille grâce aux amandes, n'est-ce pas approprié? On va essayer ça. Les amandes ne sont pas seulement bonnes pour le cœur. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association indique qu'une portion quotidienne de 42 grammes au lieu d'un aliment riche en glucides avec la même teneur en calories permet de perdre de la graisse abdominale et du tour de taille. Notre étude a démontré que remplacer des aliments à forte teneur en glucides par des amandes permettait d'améliorer plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, y compris grâce à la réduction de la graisse abdominale. C'est souligné par l'un des docteurs de l'étude. Donc, une portion de 30 grammes d'amandes contient 170 grammes de calories, 6 grammes de protéines, 4 grammes de fibres alimentaires, des vitamines et des minéraux. Alors, je vais me chercher des amandes. Eh bien, moi, je pars sur des petits alcools de vin blanc, de vin rouge et des petites bulles. Un article de Julie Perrault de la SAQ. Qu'est-ce qu'on boit aux fêtes? Aux fêtes, on est toujours dans les belles toits. Alors, nos choix ici, un Pyrène cuvée marine, un vin de pays des côtes de Gascogne, France, à 13,95 $. Un mélange tonifiant de Sauvignon blanc, de Gros Mansing et de Colombard aux saveurs d'agrumes. Le Bonheur Chardonnay 2013, de l'Afrique du Sud, à 17,20 $. Ses effluves fruitées rappellent l'ananas et la pêche. Aussi des notes d'amandes, de bois et d'épices léguées par un élevage en fût de chêne. Nous avons la Chablisienne Chablis, premier cru, Côte de l'Échet, 2011, de la France, à 33 $. Un vin vivifiant aux notes de pommes vertes, de fleurs mellifères et de citron, doté d'une minéralité presque marine. Dans nos vins rouges, nous avons de beaux choix aussi. L'Esprit de Château Capendu, un Corbière de France, à 16,60 $. Ce vin rassemble les cépages Carignan, Grenache et Syrah. Il en résulte un vin gorgé de fruits mûrs aux effluves de cerises, de fleurs et d'herbes aromatiques. Nous avons le Château Viramière Saint-Émilion Grand Cru 2010, un Bordeaux de France. 29,35 $ la bouteille, un vin plein et charnu au parfum de fruits noirs, d'herbes aromatiques, de cuir et de sous-bois. un Luigi Righetti Amarone 2010, un Amarone de la Valle Policella. Quel beau souvenir pour moi, l'Italie! Oh. 29 et 25 la bouteille, un vin riche et capiteux au parfum de fruits noirs confits, d'épices de cuir et de mocha. Allons vers nos petites bulles, nous avons quelques choix. Les vergers de la colline, le cuivre, un cidre mousseux du Québec. 14,95 $ Hey. Ce cidre manifeste une délicate effervescence et charme par sa douceur. Son profil aromatique est fluve de pommes bien mûres, de fleurs mellifères, de melons et d'agrumes. Parfait pour accompagner un tiramisu des framboises du chocolat. Un autre Paresse Balta Cava Brut d'Espagne. Ce mousseux à $17,20 la bouteille. Ce mousseux sec déploie des notes de fruits à chair blanche, de fleurs et de pâtisserie. Laurent Claude et Demoiselles 2011, un crémant de Limoux en France à $23,20. Ce crémant embaume la pomme, la poire et la brioche. Sa belle rondeur en bouche et sa finale minérale en font un choix tout indiqué pour les fêtes. Voilà pour nos petites vins et nos bulles.
Eh bien, de très bons conseils pour se relancer dans le temps de Noël.
Oui, mais attends, j'ai un autre petit article sur les bourbons. Je sais pas si tu sais, mais les bourbons et les whisky, c'est la grande mode. Alors, un article de Aurélia Filion dans le Châtelaine de janvier 2015. Oui, un petit bourbon. Après le gin et la vodka, ce whisky américain est la boisson vedette du moment.
Ah, oui,
il faut savoir. Hein? Est-ce à force de voir des personnages de Mad Men un verre à la main? Le fait est que le whisky américain, et plus précisément le bourbon, qui est un type de whisky, attire de plus en plus d'amateurs d'alcool fin. C'est la boisson à déguster maintenant et à servir à ses amis et ses invités. D'ailleurs, toutes les occasions sont bonnes. Soirée relax ou retour d'une journée de plein air. Whisky, scotch, rye et bourbon. Est-ce qu'on sait la différence? Le nom générique englobant les spiritueux de la famille est whisky. En Irlande et aux États-Unis, on ajoute un « e », ce qui donne un whisky. On boira donc un whisky canadien, mais un whisky irlandais. Qu'on parle d'une variante ou d'une autre, il s'agit d'une eau-de-vie de grains élevée en fût. Le nom du produit dépend du pays d'origine et des céréales utilisées, généralement un mélange. Le scotch vient d'Écosse et de nulle part ailleurs. Le bourbon est produit aux États-Unis, point. Le rye est soit du Canada ou soit des États-Unis, imagine. En principe, on pourrait produire du whisky avec n'importe quel grain, mais voici les céréales principales et leurs goûts s'y rattachant. L'orge maltée est employée pour les spiritueux d'Écosse, d'Irlande et du Japon. Elle procure à l'alcool une saveur fumée et tourbée. Le seigle, rye en anglais, est à la base des ryes canadiens et américains. Il leur donne leur fameux caractère épicé. Le maïs sert à la fabrication du bourbon. Il lui confère un arôme riche et sucré.
Le maïs?
Oui, imagine des céréales. Pourquoi le bourbon? Le Kentucky est le berceau du bourbon. Cependant, l'alcool ne doit pas obligatoirement y être produit pour porter cette appellation. Il peut être fabriqué n'importe où aux États-Unis. On fait d'ailleurs de très bons bourbons en plein cœur de Brooklyn. Hey, reste que 90% de la production vient du Kentucky. Il n'y a pas si longtemps, cette industrie était à plat, enfermée dans une image vieillotte. Mais depuis une dizaine d'années, elle a le vent dans les voiles. Comment expliquer ce changement? D'abord par le virage qualité entrepris par certaines grosses distilleries du Kentucky. Mais l'assouplissement des lois qui a permis l'émergence de micro-distilleries dynamiques. Enfin, cette eau-de-vie a gagné la faveur des hipsters qui ont tendance à adopter tout ce qui est rural et authentique, à l'image des bourbons artisanaux et qui ont une influence sur les modes. Conseil de dégustation, on peut simplement faire déguster son bourbon dans un tumbler verre droit à fond épais. On peut imiter les pros, humbles buvant dans un verre en forme tulipe. Alors, bonne dégustation! Waouh!
On pourrait se mettre un petit bourbon de côté, hein, je pense, Janine, pour l'article qui va suivre.
Il faut essayer ça.
Alors moi, en fait, c'est un petit article de Frédéric Sauvé dans la revue, dans le magazine Espace de ce mois de janvier 2015 qui s'intitule « Six paradis cachés pour la raquette ». Alors après ça, un petit bourbon, ça peut quand même être intéressant.
Et ça semble.
Pour quelques heures ou plusieurs jours de randonnée, voici des idées d'escapades hivernales méconnues. Alors, je vous parlais de la randonnée d'hiver tantôt. Et bien voilà, je vais vous donner quelques indicatifs sur des lieux qui sont bien intéressants apparemment à visiter en raquette. Le premier, station touristique Duchesnay à Québec. Si l'on pense, généralement aux parcs nationaux de la CEPAC lors de nos recherches de nouveaux sentiers à explorer, on oublie parfois de cliquer sur l'onglet « Centre touristique » et ceux-ci recèlent eux aussi de beaux décors hivernaux sillonnés de sentiers souvent méconnus, comme c'est le cas de la station touristique Duchesnay à 30 minutes au nord-ouest de Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, figé sous la glace, la dizaine de sentiers serpentent sur les reliefs qui l'encadrent et forment de jolies boucles de 1,4 km à 11 km, ce qui est quand même intéressant, on a beaucoup de...
Ça
nous laisse le choix.
Ouais.
Qui sont réalisables en une heure ou bien jusqu'à 5h30. Pour les plus endurants, deux sentiers linéaires, la détente qui est de 8 km en fait, aller et le coureur des bois 12,5 km aller, mènent à des refuges idéaux pour passer la nuit en forêt. Réseau de sentiers de raquettes, en fait, on a 10 sentiers balisés totalisant 30,5 km. On peut louer des raquettes également sur place à 17,25 par adulte par jour.
Imagine, oui!
Il y a des petits frais d'accès, par contre, aux sentiers de 6,30 par adulte pour la journée, puis c'est gratuit, évidemment, pour les clients qui sont en hébergement. On trouve donc des refuges chauffés sur les sentiers et puis d'autres activités qui sont à faire sur place, ski de fond, ski hoc, patinage, glissade et spa. Et voilà, donc plus d'informations sur cepac.com. Le deuxième lieu dont j'ai envie de vous parler, c'est le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu, dans la Mauricie. Aux portes du parc national de la Mauricie, dans le décor rocheux du plateau Laurentien, se trouve un site au potentiel insoupçonné. Le parc récréo-forestier du secteur de Saint-Mathieu-du-Lac offre à ses visiteurs en raquette ainsi qu'à pied plus d'une quarantaine de kilomètres balisés zigzagant dans la Pinède, à flanc de falaise ou encore sur les rives de petits ruisseaux enfouis sous la neige. Une belle destination de balade dominicale avec Pitou en laisse qui laisse le choix entre de courtes boucles accessibles aux raquettistes en herbe de 3,4 km à 7 km et de plus longs parcours, dont celui de la Chute du Diable, une boucle de 9 km, tronçon du sentier national, qui traverse le parc sur 30 km d'est en ouest, ou vice-versa, bien sûr. Un abri linto, tout à l'heure, je vous en ai parlé un petit peu de ces abris linto, situé à mi-chemin du sentier, est une belle occasion pour improviser un pique-nique en bordure de la rivière. Alors, il y a 6 sentiers balisés, totalisant une quarantaine de kilomètres en tout. Les frais d'accès pour ces sentiers-là, en fait, il n'y en a pas, c'est gratuit, donc c'est quand même intéressant. Les abris sur les sentiers, donc les linteaux qui sont équipés de toilettes sèches sur le sentier de la Chute du Diable et autres activités sur place, il y a une belle paroi d'escalade de glace à 20 mètres du stationnement. Ensuite, le parc régional des Sept Chutes à Lanaudière. Nouvelle destination hivernale à explorer, ouverte aux raquettistes depuis cette année seulement, le parc régional des Sept Chutes offre certains des plus beaux points de vue de la région Matawini enneigée. Pour y parvenir, on entreprend de grimper sur les crêtes rocheuses du Mont Brassard, qui est à 655 mètres d'altitude et qui représente une boucle de 6,7 km, et ainsi profiter de la vue depuis ces caps rocheux. On pourra également gravir les 600 et quelques mètres du Mont Barrière sur un sentier en grande partie en forêt. D'autres randonnées plus courtes sillonnent la vallée située entre les deux géants. C'est le cas d'une balade de 2 km aller-retour pour aller admirer la superbe chute du voile de La Mariée. Un joli nom quand même. Un refuge de type chalet est également offert à la location pendant l'hiver. Il y a 12 km de sentiers balisés pour ce parc-ci. Des frais d'accès de 6 $ par adulte par jour, 3 abris. Et en idée d'hébergement, il y a également un chalet-refuge de 12 places à proximité de la route 131, accessible en voiture. Le quatrième sentier, c'est les sentiers des Trois-Monts, en fait, en Mauricie également. Trois-Monts pour le prix d'un, la belle affaire quand même, parcourant le territoire de la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine au sud-ouest de Thetford Mines. Le réseau de sentiers des Trois-Monts propose différentes longueurs de randonnée en raquette, dont un très long parcours de 15,8 km grimpant sur les trois monts de la région, les monts Oak, Cœur et Caribou. Une randonnée nécessitant endurance et bonnes conditions météorologiques. Lorsqu'il y a un bon enneigement au sol, mais à éviter si les sentiers n'ont pas été tracés vu la longueur du parcours, les randonneurs de moins longue haleine pourront quand même privilégier un seul sommet et alors réaliser une boucle entre 5 km entre le mont Ouac et 10 km en fait entre le mont Ouac et le mont Caribou, depuis le sillage de Vimy Ridge où se trouvent les hébergements, à découvrir sans tarder. Également, l'intervalle dans les Laurentides, bien que la base de plein air... pour le dernier, je pense, c'est 4,50 par adulte par jour pour l'accès au sentier. Mm-hmm. L'intervalle ensuite dans les Laurentides, bien que la base de plein air, l'intervalle mérite entièrement sa place dans notre sélection, elle est souvent déjà connue des fondeurs laurentiens et parfois de quelques raquettistes de la région. Avec une douzaine de sentiers oscillants entre 488 km et 830 mètres d'altitude, son réseau est généralement bien gâté en termes de conditions d'enneigement et de points de vue. La plupart des sentiers sont à partager avec les skieurs de fond et proposent une belle variété de difficultés. Il y en a 3 faciles, 6 intermédiaires et 3 difficiles. De 1 km à 12,5, ça nous laisse le choix. Parmi les plus corsés, l'ascension du mont Kaikop, 2,8 km aller, est à ne pas manquer. Lui, dans le nom algonquin, signifie « espace rocheux, haut et escarpé ». Ça vous donne une petite idée. Et au sommet duquel la vue porte jusqu'au Mont Tremblant et au gratte-ciel de Montréal, ceux qui sont épris de liberté et de poudreuse s'amuseront à dévaler les sous-bois en hors-piste, des frais d'accès de $6 par jour. Et en dernier lieu, le parc national du lac, j'ai plié ma page, Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, nouvelle destination hivernale à explorer. Ouverte aux raquettistes depuis cette année seulement, le parc régional des Sept Chutes offre certains des plus beaux points de vue de la région Matawini enneigée. Donc c'est en fait un réseau d'à peu près 12 km de sentiers avec des frais d'accès de $6 par jour. Donc voilà, ça vous laisse du choix.
Eh ouais, des bons prix.
waiting, how sweet life will be when you come back to me.
Eh bien, Abel, c'est avec cette belle relaxation que nous a donné le duo Tom and Joy avec la chanson Méditation, je vais rentrer dans un texte un petit peu plus sérieux, l'hypersexualisation. Un texte de Clémence Rillet, de Moi et compagnie dans le magazine de février. Mieux guider nos enfants, bien que le phénomène ne soit pas nouveau. L'hypersexualisation pose toujours problème. Les jeunes n'échappent pas aux nombreux pièges et messages à caractère sexuel qui leur sont lancés chaque jour. Comment peut-on, en tant que parents ou éducateurs, leur donner des outils pour qu'ils s'épanouissent malgré tout? On va essayer ici de vous aider un peu. En septembre dernier, et c'est aider nous-mêmes aussi, hein?
Oui, c'est important.
Eh oui, en septembre dernier, l'édition brésilienne du magazine Vogue a présenté une série de photos qui, aussitôt mises en ligne, ont enflammé les réseaux sociaux. La raison? Ces images présentaient des fillettes légèrement vêtues prenant des poses langoureuses. Je ne sais pas si tu en as eu connaissance.
Non, je n'ai pas
ça. Moi, j'ai vu ça, j'étais incroyable. Au Québec, les organisateurs d'un concours de mini-miss ont dû annuler l'événement en l'an passé après un soulèvement populaire mené par, entre autres personnes, notre jeune féministe Léa Clermont-Dion. Doit-on voir cette vague d'opposition comme un signe que les choses sont en train de changer, que les gens commencent à être moins tolérants à l'égard des images ultra-sexées véhiculées par les clips ou la publicité? Serait-ce la fin de la mode osée qu'affectionnent certains ados et même certains enfants qui souhaitent ressembler à leurs idoles? Je ne sais pas si on avance vers la solution, car je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, mais je suis assez optimiste, dit la sexologue et auteure Jocelyne Robert. Je crois que la société s'éveille et entame un processus de prise de conscience. On se demande de plus en plus comment contrer l'hypersexualisation omniprésente. Il s'agit toutefois d'un combat contre une très grosse machine, celle de la pornographie qui génère des sommes d'argent astronomiques, avance-t-elle, avant de rappeler que le mot « sexe » est le plus tapé dans les moteurs de recherche sur le web.
Ah ouais.
Et s'il fallait désigner un coupable, le web serait sans doute le premier à être montré du doigt. Le tournant des années 2000 a été important, explique Mme Robert. Avec la mondialisation et la montée fulgurante du web, la pornographie est devenue accessible et même banale. Dans les années 90, il était plutôt rare de rencontrer des jeunes dépendants de la porno, car il n'était pas si facile de mettre la main sur des films et des magazines. Aujourd'hui, ce trouble est fréquent. On n'a pas d'autre choix que de mettre les enfants en garde et de bien les encadrer. Dès l'âge de 8 ans, plusieurs d'entre eux voient des images très explicites.
Ah, justement, j'allais te demander à quel âge ça a commencé.
8 ans, imagine, ouais. Ils sortent de leur maison, ils s'éloignent. Hein. Ils ont toutes sortes d'offres. Là. Tout le monde, les jeunes veulent montrer le plus possible.
L'accès,
la sexualité, ouais, est omniprésente dans la société, ce qui influence énormément les jeunes en pleine construction de leur identité, souligne la sexologue. Je dis souvent qu'un préadolescent, c'est comme de la cire chaude. C'est en ébullition. Ça se forme et ça durcit. La personne érotique qu'on va devenir se forge à ce moment-là. Je ne prétends pas, par contre, que ça ne peut pas plus changer par la suite. Mais il est de notre devoir en tant que parents de rester vigilants. Il faut expliquer aux jeunes que ce qu'ils voient, c'est du spectacle, que tous ces corps parfaits sont artificiels. Comme il n'est pas toujours évident de parler de ces choses à nos enfants, un retour à l'éducation sexuelle dans les écoles serait nécessaire. Mais comment agir? Pour la psychologue Stéphanie Léonard, qui est elle-même maman, parler de l'hypersexualisation est essentiel. Même quand les enfants sont encore petits, il faut saisir toutes les occasions d'aborder la question de l'hypersexualisation. Je me rappelle, par exemple, avoir constaté que Dora avait bien changé à un moment avec ses cheveux longs et sa silhouette plus sexy, qui ne lui donnait plus un air d'exploratrice. J'en ai profité pour demander à ma fille ce qu'elle en pensait, pour provoquer sa réflexion. Quand les enfants grandissent, je conseille de continuer à s'intéresser à ce qui les branche et ce qu'ils pensent. C'est plus difficile de les convaincre quand une bonne communication a toujours été établie. Des discours moralisateurs et trop catégoriques sont à éviter. Et les garçons là-dedans. Bien qu'une plus grande pression soit exercée sur les filles, l'hypersexualisation les touche aussi. Ça passe différemment dans leur cas. Alors que les filles se doivent d'être séduisantes, les garçons, eux, rêvent d'être forts, tout puissants, d'utiliser la violence pour régler les conflits. Note la psychologue. Toutefois, c'est vrai, par exemple, les jeunes, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient beaux, musclés. Toutefois, comme c'est le cas pour les filles, il importe d'être au fait que notre garçon regarde, écoute et admire, et de soulever les questionnements à partir de cela. On peut, par exemple, lui demander ce qu'il pense de cet acteur vraiment très musclé. Bref, il faut prendre le temps de démystifier les images et les messages auxquels notre garçon est exposé. Comment réagir devant un ado qui met des vêtements que l'on juge trop sexy? Il faut établir des balises claires et tenir son bout, soutient Stéphanie Léonard. Sans dramatiser la situation, on tente de lui expliquer que ce n'est pas permis chez nous. La clé, c'est d'essayer de lui faire préciser ce qui lui plaît dans ses vêtements et sa motivation à les porter. Difficile d'échapper au modèle unique et formaté de beauté féminine qui se propage sur le web. Les traits fins, le teint parfait et surtout l'extrême minceur véhiculée dans une trop grande entreprise sur les jeunes. Il n'est donc pas surprenant de constater une augmentation de la prévalence des troubles alimentaires. En tant que parents, notre rôle est de veiller à ce que nos enfants développent une saine image d'eux. La psychologue Stéphanie Léonard insiste sur l'idée que nous sommes des miroirs pour nos enfants. Si, par exemple, je critique sans cesse l'apparence et le poids des autres, mon enfant comprendra qu'il y a une valeur associée à ces critères, explique-t-elle. Notre rôle consiste aussi à souligner les points forts de la personnalité de notre enfant, ce qui fait qu'un jeune qui a bonne estime de soi, c'est l'authenticité. On doit mettre l'accent sur ce qui le caractérise et non essayer de le faire entrer dans un moule. L'estime de soi, ce n'est pas de penser qu'on est meilleur ou plus beau, c'est de savoir reconnaître ce qui est et de s'apprécier ainsi.
Les brèves, alors, petite période de brève. Moi, j'en ai une petite, Janine, ouais. Qui s'intitule « Parents affectueux et enfants heureux ouais. ». On reste dans la dimension éducative. Les enfants ont tendance à lancer un « wesh » bien senti en voyant leurs parents s'embrasser. Pourtant, plus ceux-ci sont affectueux entre eux, moins ils sont susceptibles de crier contre leur progéniture, selon une étude britannique qui a analysé la vie quotidienne de plus de 5000 familles. Alors, go, câlin, go!
Ah bien! Moi, j'ai quelque chose d'intéressant. L'auteur du mois, Sophie Bienvenue, dont Clotilde prochainement fera une entrevue avec elle. Pour son second roman, Sophie Bienvenue avait envie de parler d'espoir, de paternité et de chien. Pour incarner tout ça, elle a choisi Mathieu, un jeune itinérant rudement mis à l'épreuve lorsque son chien se volatilise. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire « Chercher Sam »? J'ai toujours des morceaux d'histoire en tête, comme des pièces d'un casse-tête. L'an dernier, j'ai croisé un jeune itinérant avec son chien et j'ai été témoin de leur intense rapport. Soudain, l'histoire m'a sauté aux yeux et s'il perdait son chien. À partir de là, tout s'est emboîté. Peu de gens s'intéressent à l'histoire derrière les itinérants, aux choix qu'ils ont dû faire et pourquoi ils se sont ramassés là. Je voulais montrer que la réalité, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Vous avez voulu explorer la paternité sous un angle nouveau. Pourquoi? J'aime écrire des histoires qui n'ont pas été souvent racontées en explorant des points de vue qui peuvent être dérangeants. Même s'il est jeune, je voulais que mon personnage ait envie d'avoir un enfant. Alors, un extrait de « Chercher Sam ». Sam soupire, je m'en rendors. C'est apaisant, un cœur qui bat sous ta main. Même si ce n'est rien qu'un cœur de chien. Alors, Sophie, bienvenue à suivre très bientôt avec nous.
petite dernière, la stérilisation plutôt que la pilule. En Inde, 12 femmes sont décédées en novembre dernier, peut-être que vous le savez, dans le cadre d'une opération de stérilisation de masse. Dans ce pays de 1,25 milliard d'habitants qui cherche à faire baisser sa natalité, la stérilisation est la méthode de contraception la plus répandue. Le tiers de la population qui a recours au planning familial choisit de faire stériliser la femme. En 2014, on comptait plus de 100 000 vasectomies pour 4,6 millions de ligatures des trompes, dont un grand nombre sont pratiquées dans des conditions sanitaires inadéquates.
Oh là là!
Et voilà, le temps a passé très vite.
Encore une fois.
On n'a pas oublié notre chère Dominique qui est au soleil. On lui souhaite un beau petit bonjour si elle nous écoute.
Oui.
Votre magazine est bientôt terminé aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été présent. On remercie notre cher Jean-Sébastien Lesliberté pour sa mise en opération et ses charmants choix musicaux. N'hésitez pas à nous faire de vos commentaires sur notre ligne 1-800-361-0633 au poste 220. Nous sommes toujours heureux de vous entendre ou à nous réentendre